France Info.
Bonsoir. Les attentats en Tunisie. Notre sondage Odoxa Dentsu Consulting France Info Le Figaro pour sur la canicule, l'offensive de Marion Maréchal et le G20 avec le sujet du climat qui s'invite au Japon. C'est dans les informés avec vous Véronique Reilsoult. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale de Dentsu Consulting avec Alexandre Sulzer. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique au Parisien, aujourd'hui en France, avec Pascal Richer. Bonsoir à vous Pascal, directeur
bonsoir.
Adjoint de l'Obs, cofondateur de Rue 89, et avec Franck Dedieu. Bonsoir, bienvenue
bonsoir.
Franck, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. La Tunisie, une fois de plus, la cible du terrorisme. Un double attentat suicide à Tunis. Un policier tué, 8 personnes blessées le jour où le président Essebsi a été hospitalisé dans un état critique. Bonsoir à vous, Taoufik Mjahid. Bonsoir et
bonsoir.
Bienvenue. Alors vous êtes rédacteur en chef à France 24, partenaire de France Info. Vous êtes en édition spéciale ce soir. Taoufik, vous avez déjà interviewé le président tunisien. On va y venir, mais d'abord, qu'est-ce que l'on sait ce soir précisément du double attentat survenu à Tunis ?
3 attentats en un seul jour à Tunis, ça fait beaucoup pour un pays comme la Tunisie qui se prépare à une saison touristique. Il y a eu un attentat à 3h du matin. Des hommes armés ont essayé d'attaquer un centre de transmission à Gafsa, à la frontière algérienne. Ensuite, il y a eu l'attentat à la rue Charles de Gaulle à Tunis. Ensuite, un troisième attentat qui a visé le siège de l'unité de lutte contre le terrorisme à Gorjani, aussi à Tunis.
Vous dites donc 3 attentats ce soir, Taoufik Mjahid. La Tunisie, on le sait, a connu d'autres épisodes. Elle est toujours particulièrement exposée à la menace terroriste.
Bien sûr, et les terroristes visent principalement l'appareil sécuritaire. Donc vous avez bien vu qu'ils ont visé l'armée à Gafsa, ils visent la police à la rue Charles de Gaulle, ils ont visé aussi la BAT, ce qu'on appelle la BAT, la brigade antiterroriste à Gorjani. Donc ils ont voulu marquer un coup, sauf que quand on voit le bilan, un mort et 8 blessés, les Tunisiens ils se disent qu'ils sont plus ou moins rassurés parce qu'il y a eu des attentats qui ont fait beaucoup plus de dégâts.
Beaucoup plus de ravages. Y a-t-il un lien entre ces attentats et l'état de santé du président Essebsi ?
Pas du tout, parce qu'il a déjà été hospitalisé à 10 jours ou plus de 10 jours à l'hôpital militaire de Tunis. Il a été admis ce matin dans un état grave au début. Puis après, quand on a établi des contacts avec des proches du président Béjika Essebsi, ils disent que son état est stationnaire. Rappelons que Béjika Essebsi a plus de 92 ans, donc son état de santé effectivement s'est dégradé. Mais pour l'instant, selon les officiels, son état est stationnaire.
Merci à vous, Taoufik. Mjahid, je rappelle, rédacteur en chef. Vous étiez en direct des studios de France 24. Merci à vous et bonne édition spéciale. Alors je me tourne vers vous, Pascal Richer. La Tunisie, décidément, cible des terroristes, hein, toujours.
Cible des terroristes, oui, parce que c'est en fait le seul pays des printemps arabes qui a réussi à aller jusqu'au bout et avoir une démocratie, une constitution, ce qui ne plaît pas évidemment aux islamistes et aux terroristes islamistes, qui ont l'impression que c'est un pays qui va s'occidentaliser. Et le fait qu'ils fassent cet attentat juste avant la saison touristique, ce qui va entraîner des tas d'annulations, hein. Je crois qu'un Tunisien sur 10 vit du tourisme. Donc ce qui se passe, c'est quand même, pour l'économie tunisienne, c'est quand même un coup très dur. Donc le fait que ça se passe là n'est pas innocent. Effectivement, l'arrivée de touristes aussi dans ces pays arabes ne plaît pas aux islamistes.
Franck Dedieu, ce président très malade, très âgé au fond, est un démocrate, hein, il faut le préciser. La Tunisie est un pays de stabilité.
C'est justement ça tout le paradoxe, c'est qu'effectivement il avait la solide réputation, ce pays, d'être plus ouvert, plus en voie d'occidentalisation, plus ouvert à la démocratie, et il se retrouve finalement sous le coup, je dirais, d'incursions aussi de djihadistes qui sont venus de Libye. Et c'est à ce titre-là, je crois, que les Français doivent diplomatiquement et économiquement, eh bien, soutenir ce pays, parce que, eh bien, il faut surtout pas laisser pourrir la situation. Ce mouvement, vous avez parlé du printemps arabe, ne soit pas enrayé du tout.
Oui, Emmanuel Macron, en visite au Japon, a évidemment fermement condamné, je le cite, hein, le président de la République, le double attentat. C'était sur Twitter. Ce qui se passe à Paris, Alexandre Sulzer, est évidemment suivi de très près. Ce qui se passe à Tunis est évidemment suivi de très près à Paris. Cela nous concerne directement.
Oui, bien sûr. On sait évidemment que les liens entre la France et la Tunisie sont forts, les liens économiques, les liens culturels, de façon évidente. En plus, c'est vrai que depuis des années, depuis les grands attentats de 2015, les touristes français avaient un peu fui quand même, il faut dire, le pays. Et progressivement, les touristes étaient revenus. Et notamment cette année, ils s'attendaient à, non peut-être pas refaire le plein, mais quasiment à revenir à une situation normale. Et là, évidemment, et Pascal Richer l'a très bien dit, ça intervient pile à ce moment-là. Donc c'est fait, tout a été pensé pour gâcher un retour presque à la normale au niveau économique, un poumon, un secteur essentiel pour l'économie et donc pour la stabilité du pays.
Oui, tenter de déstabiliser ce pays à un instant crucial. Véronique Rel-Sould, les deux, donc trois attentats, comme le rappelait à l'instant Taoufik et Mjahid, sont commentés sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
Très commentés, des centaines de milliers de messages dans toute l'Europe. Évidemment, beaucoup d'émotions, mais beaucoup de messages aussi de touristes qui s'interrogent en disant il faut y aller pour soutenir et en même temps on a peur. Et donc il y a un mouvement qui est en train de se créer en disant il faut quand même y aller et braver le danger en se disant que dans le fond on est quand même protégé et que l'État tunisien va forcément mettre en place tout ce qu'il faut, parce que ne pas y aller c'est les condamner une deuxième fois. Donc voilà, mais il y a de longs débats surtout sur Facebook ce soir pour s'encourager les uns et les autres à ne pas annuler.
Allez, 20h10 sur France Info, rappel de l'info avec vous Thomas Bénèche.
Jean-Luc Mélenchon, renvoyé en correctionnel, le chef de file de la France Insoumise, va être jugé pour les perquisitions houleuses d'octobre dernier au siège du parti. Un magistrat, un policier avait été notamment invectivé, voire bousculé. Le gouvernement agit-il comme il faut en cette période de canicule? 75% des Français le pensent. Ils sont aussi 48% à exprimer des craintes face à ces très fortes chaleurs. Résultat ce soir de notre sondage Odoxa, Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Demain, certains départements français vont avoir encore plus chaud que d'autres. Hérault, Gard, Vaucluse et Bouches-du-Rhône sont classés en vigilance rouge à la canicule. Dans ces secteurs, préfecture et rectorat conseillent aux parents de garder leurs enfants et de ne pas les emmener à l'école. Les États-Unis assurent aujourd'hui à leurs partenaires de l'OTAN qu'ils ne veulent pas d'une guerre avec l'Iran. Le pays se dit prêt à négocier. Plus tôt dans la journée, le ministre iranien des Affaires étrangères prévenait Donald Trump que son idée d'une guerre courte avec le régime de Téhéran était une illusion.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, on va parler de la canicule avec notre sondage. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir à ce que vient de révéler Thomas Bénèche à l'instant. Franck De Dieu, vous êtes surpris par cette convocation correctionnelle de Jean-Luc Mélenchon?
Surpris, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut savoir que le point qui a, je dirais, causé beaucoup de dégâts à la France insoumise, ce sont ces images. Beaucoup de gens qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon ont hésité en voyant, je dirais, la violence du comportement. Alors après, on pourra aussi juger ce qui s'est passé avant, etc. Je veux dire, tout ça est parfaitement défendable. Mais je crois qu'au fond, cette question-là, il y a des questions judiciaires qui se posent, il y a des questions de personnalité, on l'a vu la semaine dernière. Enfin bref, il y a une sorte de storytelling autour de la France insoumise. Je crois que pour résoudre ce problème-là, par-delà la nature du problème, en l'occurrence judiciaire, c'est la question du fond, c'est la question politique. Et vous avez deux courants qui se déchirent et qui empêchent véritablement une véritable dynamique. Alors, c'est peut-être distinct d'un coup de colère, mais c'est quand même absolument essentiel, je crois, c'est que vous avez un courant un peu gauchisant et un courant plus républicain. Oui. Et je dirais que leurs divergences apparaissent dans, je dirais, cet univers un peu conflictuel, dans sa vérité crue.
Alexandre Sulzer, vous pensez que, comme le rappelle à l'instant Franck De Dieu, ce qui s'est produit ce jour-là, on se souvient du président, enfin du leader, pardonnez-moi, de la France insoumise qui appelle ses proches, enfin qui s'oppose au fond aux policiers, il y avait cette porte enfoncée. Est-ce que vous pensez que ça a eu un effet repoussoir sur l'électorat de la France insoumise?
C'est certain, hein, les enquêtes, je crois, le montrent bien. Les résultats, surtout aux européennes, le montrent bien. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il a un côté un peu bicéphale, un ténor pétri d'histoire, républicain, qui des fois fait des discours à l'Assemblée nationale qui sont un peu d'ailleurs par tout l'hémicycle, dans certaines circonstances. Puis d'autres fois, un homme autoritaire, mégalomane, qui a des comme ça des accès de colère. Et ce jour-là, évidemment, ça a été, enfin, les images étaient sidérantes. Et l'aspect respectable qui a pu séduire une partie de la gauche s'est vraiment effondré ce jour-là. Ouais. Ça s'est, à mon avis, il y a eu un effet dans l'électorat, mais aussi chez les cadres qui ont vu à ce moment-là que tout le potentiel de Jean-Luc Mélenchon comme opposant à Emmanuel Macron s'est un peu liquéfié, alors qu'il avait un boulevard devant lui au moment où même où Marine Le Pen, à qui il est en compétition pour ce rôle de premier opposant, était alors en difficulté, mais elle a rattrapé le retard.
C'est vrai que vous rappelez ces images qui avaient été spectaculaires. On avait vu, je me rappelle, Jean-Luc Mélenchon qui appelait ses proches à enfoncer la porte parce que la perquisition avait lieu à l'intérieur, et même bousculant un représentant de la justice ou des forces de l'ordre, Pascal Richer. Il paie l'addition de ça aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, je crois qu'il paye l'addition, en fait, de ce grand écart. C'est-à-dire, effectivement, ce que vous dites est tout à fait juste. À la fois, il se présente comme un homme traditionnel de gauche. C'est l'interview qu'il donne à Libération récemment pour appeler une fédération, etc. Et puis, de l'autre, il se présente comme un tribun hors République. Donc, dans ses images, c'était criant, mais aussi dans son soutien aux Gilets jaunes, qui était quand même assez prononcé au début, ensuite il a hésité. Et puis, cette façon d'opposer le peuple et les élites en refusant de dire gauche-droite, en essayant de trouver un autre clivage. Donc, il est dans une espèce de flou idéologique aujourd'hui, et personne ne veut voter pour du flou. On veut des choses claires. Et effectivement, la ligne de la France insoumise n'est pas claire à cause de son leader.
C'est vrai que Véronique Reilsoult, cet épisode, vous aviez été invité un soir, on en avait débattu ici même, avait fait sensation quand même.
Oui. Il avait fait sensation pour deux raisons. La première, c'était qu'il était apparu comme peut-être pas si présidentiable que ça, parce qu'il perd ses nerfs à ce moment-là, et on se dit, bien, est-ce qu'un président doit perdre ses nerfs de cette façon-là? Et puis surtout, c'est une phrase qui n'est pas passée auprès des militants, en particulier des jeunes, qui est « je suis la République, on ne peut pas me toucher, ma personne est sacrée ». Et « ma personne est sacrée », c'était la phrase qui était reprise partout sur les réseaux, en particulier par les militants, et depuis cette phrase-là, son image a basculé. Ma personne est sacrée. Ça n'est pas dissible. Ça n'est pas entendable pour les militants. Et donc, depuis, les choses sont compliquées.
D'autant que Jean-Luc Mélenchon plaide pour une réforme institutionnelle. Il n'arrête pas de critiquer la verticalité des institutions de la Ve République. Et là, il est pris en flagrant délit de pure verticalité. Donc, il y a effectivement cette contradiction qui éclate au grand jour.
Encore quelques mots là-dessus. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon affirme ne pas être au courant de cette convocation devant la justice. Il peut perdre son leadership avec cette affaire Fang de Dieu.
En tout cas, à l'intérieur...
Parce que là, il a semblé reprendre la main un petit peu quand même.
Il a essayé de prendre la main, mais il faut absolument, et là vous l'avez dit, finalement, cette contradiction entre ce gauchisme multiculturaliste et ce républicain un peu jacobin souverainiste, eh bien, quelque part, j'ai l'impression, c'est en lui. Et quand vous parlez de cette « ma personne est sacrée », effectivement, il y a une verticalité. Mais il y a aussi quelque chose qui touche à la Ve République. Si c'était un conventionnel en 1793 qui dit « ma personne est sacrée », on n'en sortira que par la force des baïonnettes, ça a de la gueule. Quand il le dit comme ça, pardonnez-moi, mais quand il le dit devant un représentant de la République, du coup, l'effet tombe. Et je crois que cette contradiction, je dirais, idéologique, elle est au fond de lui-même, et elle se déploie de degré en degré au sein des militants. Il faut qu'il soit très clair là-dessus. Il faut qu'il soit très clair.
Fragiliser la France insoumise, Pascal Richer.
Ce qui est compliqué, c'est que les succès de la France insoumise, c'est quand même lui. Là où la France insoumise a vraiment cartonné dans les urnes, c'est quand il était lui-même candidat. Donc, il est à la fois un actif de la France insoumise, et sans lui, on ne sait pas trop ce que deviendra la France insoumise, mais c'est possible qu'elle disparaîtrait. Donc, c'est une situation extrêmement compliquée pour ce parti, qui, à la fois, est pénalisé par son leader, mais a encore besoin de ce leader, parce que c'est un actif.
Qu'il entretient le flou. Ce flou idéologique, et à un certain moment, ça plaisait, ça a pu fédérer. À un autre, au contraire, ça déchire.
Allez, le coup de chaud, c'est aussi dans l'atmosphère. On va parler de la canicule à présent. Et notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro pour une majorité de Français, la société, le gouvernement ont tiré les leçons de la canicule de 2003. Enquête réalisée comme d'habitude en ligne entre hier et aujourd'hui auprès d'un millier de personnes. Écoutons Céline Braque, la directrice générale d'Odoxa.
sur l'action du gouvernement, puisqu'on a les trois quarts des Français, 75%, qui disent que le gouvernement fait tout ce qu'il faut, il agit, il communique comme il faut pour prévenir d'éventuels décès suite à cette canicule. Alors c'est assez rare que sur des sujets d'inquiétude majeure, les Français nous disent le gouvernement en fait suffisamment. Mais sur les sujets de santé publique, on relève ça assez régulièrement. Finalement, il y a beaucoup moins de clivage politique sur ce genre de sujet.
Véronique Reilsoult, 75% donc des personnes interrogées qui délivrent un bon point au gouvernement, c'est assez rare pour être souligné.
C'est très rare.
Alors le gouvernement, finalement, on n'en aura pas trop fait, puisqu'on s'est posé la question au fil des jours, il fallait bien dire quelque chose autour de cette histoire de canicule.
Non, pour les Français, il n'en aura pas trop fait, 75% c'est parlant. Quand on regarde d'ailleurs ce qu'ils disent sur les réseaux, tout le monde est plutôt d'accord. Donc, de toute façon, ils n'auraient rien fait, on aurait critiqué, donc voilà. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même 56% aussi des Français qui disent que finalement, il faut être quand même assez fataliste et que dans le fond, ce sont des événements où le gouvernement ne peut pas faire grand-chose d'autre que de prévenir et de mettre en place quelques consignes. Et donc, globalement, ils trouvent qu'ils n'en ont pas fait trop parce qu'on n'en fait jamais trop pour prévenir et qu'on a tiré les leçons du passé, mais que dans le fond, le gouvernement ne peut pas non plus faire grand-chose. C'est ainsi.
Nous sommes en plein épisode. Je rappelle que demain, il y aura 4 départements, vigilance rouge, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Vaucluse. Il y a ces arrêtés pour limiter la circulation dans les grandes villes de Pascal Richer. On va dire que l'épisode est relativement bien géré. Il y a de l'information tous azimuts.
Oui, je crois qu'on a notre dose, si je puis me permettre.
Vous avez le droit de le dire.
En 2003, il y a eu 15 000 morts.
Oui,
alors à l'époque, évidemment, c'était un traumatisme pour cette société de voir qu'on était incapable d'éviter 15 000 morts. Mais depuis, il y a eu plusieurs canicules. Il y en a eu en 2015, je crois qu'il y en a eu une l'année dernière. On en avait parlé au mois d'août. Sans qu'il y ait de milliers de morts. Donc les gens se rendent compte que voilà, il y a des choses qui ont été faites, de l'information, de la communication entre les associations, les collectivités locales, l'État, les systèmes d'alerte avec des couleurs.
Vous dites pas c'est trop.
Non, c'est jamais trop. Si on peut éviter des drames, c'est jamais trop. Mais c'est, voilà, les Français le reconnaissent.
Allez, on reste sur l'épisode de Caldiculaire et sur notre enquête Odoxa Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro. Nous marquons une pause, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
L'homme soupçonné d'avoir fait 2 blessés devant la mosquée de Brest a été retrouvé mort, une balle dans la tête. Cet après-midi vers 16h, il tire sur 2 hommes dont l'un n'est autre que l'imam de cette mosquée. Les victimes sont hospitalisées mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Des records de température relevés ce jeudi en France. 40,9 degrés relevés à Fontaine, en Haute-Loire, 39,5 degrés signalés à Montmarault dans l'Allier. Pour demain, ce sera encore plus chaud. 4 départements du Sud-Est, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône seront classés pour cette journée en vigilance rouge à la canicule. Compte tenu de cette météo, la SNCF fait une proposition à ses clients. Si vous souhaitez annuler votre déplacement en TGV ou en intercité, eh bien vous pourrez le faire sans frais dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir inclus. Par ailleurs, la SNCF conseille à ses usagers de reporter ou d'annuler leur déplacement vers les 4 départements où la canicule sera demain la plus sévère. Enfin, le judoka français Teddy Riner, très bientôt de retour sur les tatamis. Il reviendra à la compétition lors du Grand Prix de Montréal du 5 au 7 juillet, fait savoir ce soir la Fédération française de judo. Le champion français n'a plus combattu depuis novembre 2017.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors Véronique Reilsoult, cet épisode de canicule inquiète particulièrement les personnes interrogées, près d'une sur deux, 48%, c'est 13 points de plus qu'en 2015, donc dit avoir peur pour sa santé ou celle de ses proches. Il y a une sorte d'inquiétude liée peut-être au phénomène de pic de pollution, de climat.
C'est-à-dire qu'on entend forcément qu'au-delà de la chaleur qui est inconfortable, que c'est dangereux, que effectivement la pollution augmente et donc c'est un climat un peu anxiogène. Mais de nouveau, considérant qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus que ce qui est fait, ce qui était quand même assez amusant aussi, c'est de regarder qu'on dit qu'on en parle beaucoup, mais les Français, ils en parlent beaucoup aussi parce que sur les réseaux sociaux, c'est évidemment le sujet. En 3 jours, il y a eu près de 800 000 messages. Et ce qui était intéressant, c'était de regarder quelles étaient les consignes les plus partagées. Évidemment, il y a des infos pratiques, les informations données par le gouvernement, et puis des informations assez amusantes. En tout cas, ça a l'air de préoccuper les Français, sur Instagram en particulier. Le sujet, sachez-le, ce sont les chiens. tout le monde parle des chiens. Comment on fait pour...
C'est-à-dire, je comprends pas.
Comment est-ce qu'on accompagne son chien au moment de la canicule? Est-ce qu'il faut l'arroser, pas l'arroser? Enfin voilà, donc c'est pour vous dire que c'est un sujet qui concerne tout le
monde. Les personnes âgées, les enfants passaient quand même avant les chiens,
non? Écoutez, sur Instagram, on parlait beaucoup des chiens.
Des chiens.
Voilà, donc c'est un sujet qui préoccupe.
On apprend des choses. Alors, évidemment, tout le monde parle de canicule, de climat. L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui l'article phare du projet de loi énergie et climat portant sur les objectifs de la politique énergétique du pays en décrétant l'urgence écologique et climatique avec un objectif tout de même, neutralité carbone à l'horizon 2050. Écoutez ce qu'en a dit David Belliard, il est candidat Europe Écologie Les Verts aux municipales parisiennes, l'invité du 19-20 politique de Jean-Jérôme Bertolus et Gilles Bornstein.
Là, en fait, on en a encore au mot. Moi, je veux bien qu'on vote l'urgence écologique, je veux bien qu'on vote la question du changement climatique. Bref, on peut voter tout ce qu'on veut si à la fin, il n'y a pas d'actions qui sont des actions concrètes, par exemple pour transformer le parc automobile, pour investir dans d'autres modes de transport. Si on n'arrive pas à la fin à ça, c'est-à-dire des actions qui sont des actions concrètes, on peut faire de grandes déclarations, on peut utiliser des grands mots et dire la main sur le cœur, oui, on va faire de l'écologie et à la fin, rien ne se passe. Et ça, c'est un problème parce que c'est nous qui le payons et notre santé.
Pascal Richet, est-ce qu'on se paie de mots, comme le dit David Belliard?
Oui, je suis à 100% d'accord avec ce qu'il vient de dire. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron et ce parti, La France en Marche...
La République en Marche.
La République en Marche, pardon.
C'est la fusion, en fait. Voilà.
Ça fusionne vite, là, oui.
Voilà, qu'il y a vraiment un grand écart entre le vocabulaire, où effectivement, lui se présente comme le champion de l'écologie, et puis les faits qui vont vraiment, vraiment pas assez vite. Il y a plus d'aide, il y a plus d'investissement dans les routes aujourd'hui que dans la voiture propre ou que dans les transports en commun. Ou on fait des cars Macron et on supprime des trains de nuit, pour résumer un peu brutalement ce que j'essaie de dire.
Oui.
Voilà, et je pense que c'est un peu le péché de Macron et qui va finir par payer, parce que votre sondage montre bien que on voit bien que les gens commencent à comprendre que ces canicules, c'est pas un hasard, quoi.
Oui, ça n'est pas
avant, il y en avait une toutes les 10 ans,
ouais.
Maintenant il y en a quasiment tous les ans, quoi. Et ça va s'accélérer. Et donc la pollution qui va avec est terrible, hein. Il y a 60 000 morts par an quand même de la pollution. Donc forcément, s'il n'agit pas et s'il se paye de mots, comme vous dites, ça se terminera mal.
Franck de Dieu, cette urgence qui est évoquée dans ces débats à l'Assemblée, ces votes, l'urgence en question, c'est quasiment du Nicolas Hulot dans le texte, il le dit depuis longtemps.
Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, si les actes ne sont pas en adéquation au diapason des mots, et inversement, ça a été dit par le premier, par Nicolas Hulot. Nicolas Hulot dit, vous pouvez, je dirais, avoir des bonnes intentions. Là, on l'a vu avec la canicule, de la prévention, des petits conseils au quotidien. Il y a un moment donné où le problème de l'écologie et du respect de la planète est un problème systémique. Et donc, il disait même, à partir du moment où vous choisissez un mode qui est le libre-échangisme, un yaourt aux fraises fait 9000 kilomètres. Songez à cela, un yaourt aux fraises fait 9000 kilomètres. À partir du moment où vous acceptez, dans ces termes, je dirais comme dans les années 80 et 90, tous les grands principes, les grands dogmes de la mondialisation et du libre-échange, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron, il l'incarne même d'une certaine manière, eh bien, à ce moment-là, vous êtes finalement contraint, je dirais, d'avoir une sorte de contradiction avec, entre vos mots, qui sont parfois, je dirais, vraiment de bonne foi, je crois que c'est pas que du cinéma, et les actes qui butent sur cette question, je dirais, cette question systémique. Et là, ça pose une question beaucoup plus importante.
Vous voulez dire
plus,
que la société, l'économie telle qu'elles sont organisées aujourd'hui ne peuvent pas permettre au fond, de lutter utilement et rapidement contre l'urgence climatique, dérèglement climatique.
C'est ça, c'est que on voit qu'il y a des petits gestes au quotidien et pour peu qu'on regarde les effets, je dirais, sur l'émission de carbone, on s'aperçoit que la grande question qui se pose, c'est celle de la réduction des échanges au niveau mondial, de la réduction de la mondialisation, de la démondialisation, du retour au local. Et ça, c'est vrai que ça fait un programme économique qui dépasse l'écologie. Et d'une certaine manière, on sent ici poindre, et on le voit d'ailleurs, je crois que c'est un peu le succès des Verts, on voit prendre une sorte de convergence entre des postures qui sont des postures bienveillantes vertes, et puis aussi, je dirais, un besoin de changer radicalement les bases mêmes du système qui sont à l'origine du réchauffement climatique.
Alexandre Suzière, dans Le Parisien, aujourd'hui en France, de plus en plus de papiers tous les jours, je vous lis dans mon lit le soir.
Vous avez bien raison.
Voilà, de plus en plus de papiers sur ces thématiques climatiques, sur la canicule, vrai sujet de préoccupation.
C'est vrai que depuis, je ne sais pas si on peut le dater véritablement,
mais
depuis quelques
récent.
Mois, il y a une accélération, on a l'impression, de la prise de conscience chez les Français, non seulement de l'urgence, mais également un vrai vrai intérêt, comme c'est une révolution culturelle par rapport à cette urgence climatique. Ça se voit dans les thèmes abordés dans les émissions télé même, hein, qui, lorsqu'ils abordent ces sujets, font des succès d'audience. Et ça s'est vu de façon assez flagrante aux dernières élections où presque tous les candidats se sont un peu emparés du sujet. Ceux qui s'en sont pas emparés n'ont pas forcément, ça n'a pas forcément été payant. L'idée qu'effectivement il fallait faire limiter certains excès du libre-échange pour des raisons écologiques, oui, a été présent dans toutes les familles politiques.
Allez, je vous rassure, on restera sur ce sujet de la canicule du climat en début de deuxième partie des Informés de France Info. Et j'ai appris quelque chose sur il faut arroser les chiens.
C'est ça, il faut arroser son
canicule.
Chien.
Merci à vous, Véronique Reel-Soult. On se retrouve dans quelques minutes après le rappel de la météo, justement, et le retour de l'info. À tout de suite.
Vous êtes un professionnel ? Europcar, leader de la location de véhicules, vous propose son offre Smartway Plus. Smartway Plus, c'est moins 20% sur vos locations, le kilométrage illimité et plein d'autres avantages toute l'année. Profitez-en pour 1 euro seulement. Pour souscrire et retrouver les conditions de l'offre, rendez-vous sur europcar.fr.
Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, 2 points, ouvrez l'info.
La météo, les prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
C'est une première en France. 4 départements ont été placés en vigilance rouge canicule. Effectivement, un pic de chaleur est attendu demain entre le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Les températures maximales seront comprises entre 41 et 44 degrés, voire très localement jusqu'à 45 degrés, comme à Nîmes par exemple. Des records de température absolue seront très certainement battus. Dans les autres régions, les maximales seront comprises entre 26 et 40 degrés. Dans le détail, comptez 26 à Cherbourg et La Rochelle, 28 à Lille, 29 à Brest, 31 au Havre, 32 à Nancy et Bordeaux, 33 à Reims ainsi qu'à Nice. Prévoyez 35 dans la capitale, 36 à Orléans, 37 à Lyon et Toulouse, 38 à Grenoble, 39 à Clermont-Ferrand et 40 degrés à Montélimar. Et puis côté ciel, un pas de jaloux, l'ensoleillement sera excellent. Prévoyez quand même en matinée des grisailles et des nuages bas vers l'ouest aquitain et du côté de la pointe du Cotentin.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Longlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. La circulation différenciée reconduite demain à Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Grenoble et Annecy pour cause de canicule bien sûr. La SNCF conseille à ses clients de reporter leurs déplacements dans les zones qui seront touchées par le pic de chaleur, notamment les 4 départements du Sud-Est placés en alerte rouge. C'est une première, 4 départements. Les autorités conseillent aux parents de garder leurs enfants chez eux. Côté transport encore, les billets TGV et Intercités seront remboursés ou échangés sans frais jusqu'à dimanche. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, lui, interdit pour quelques jours le transport des animaux. Autre conséquence, attention au risque de pénurie de boissons fraîches. Ce sont les professionnels du secteur qui tirent la sonnette d'alarme. Avec la circulation différenciée, beaucoup de véhicules, de camions, de camionnettes restent au garage et de nombreux chefs d'entreprise sont appelés par des clients en attente de livraison. Inquiet, d'après Johan Schuffard, il est le porte-parole de la Confédération du commerce de gros et international.
Les dispositions préfectorales mises en place alors dans les villes de Paris et Lyon interdisent à la circulation les véhicules vignettés critère 3 sans aucune dérogation pour les livraisons non frigorifiques. Ce sont des mesures inédites. En conséquence, une partie du parc automobile de nos entreprises gestionnaires, donc exploitantes de distributeurs automatiques, sont immobilisées et donc ne peuvent pas effectuer des livraisons de boissons fraîches. Donc le risque qui existe, c'est que les machines ne soient pas réapprovisionnées, notamment dans les lieux ouverts au public, et les hôpitaux, les EHPAD, enfin tous les lieux où vous pouvez trouver des distributeurs automatiques, et ils ne peuvent pas non plus assurer l'entretien ni le dépannage des machines, notamment des fontaines à eau, puisque les véhicules immobilisés servent aussi à ces activités-là.
À Johan Schuffard, le porte-parole de la Confédération du commerce de gros et international. L'affaire Benalla également dans l'actualité. La justice classe sans suite le signalement du Sénat pour faux témoignage d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, et Patrick Strauda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Pour le procureur, en effet, rien ne permet de caractériser une altération de la vérité destinée à tromper la mission d'information du Sénat. Fin de citation. Des coups de feu devant la mosquée de Brest cet après-midi. Un homme a blessé par balle deux personnes, dont l'imam qui se trouvait devant le lieu de culte. Leurs jours ne sont pas en danger. Le tireur, en revanche, a été retrouvé mort avec une balle dans la tête. La police privilégie la thèse du suicide. La colère des élus et des éleveurs de l'Ariège. Beaucoup d'entre eux réclament que l'État retire des ours dans la zone après la mort de plus de 250 brebis qui sont tombées d'une crête dans le massif de l'Aston suite, selon la préfecture, à la présence du plantigrade. Et puis le bras de fer qui se poursuit autour du Sea-Watch. Le navire humanitaire est toujours bloqué face à Lampedusa après avoir forcé l'entrée dans les eaux territoriales italiennes. Le bateau a tenté de gagner le port pour débarquer 42 migrants secourus il y a 15 jours, mais il a été stoppé par une vedette de la police italienne. Il est 20h33, les informés, ça continue.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Avec Véronique Reil-Soult, directrice générale de Dentsu Consulting, Alexandre Sulzer, journaliste politique au Parisien aujourd'hui en France, Pascal Richer, directeur adjoint de l'Obs, cofondateur de Rue 89, et Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Alors c'est décidément mobilisation du gouvernement contre la canicule. Le Premier ministre Édouard Philippe va présider vendredi matin, donc demain, au ministère de la Santé, une réunion interministérielle sur la canicule qui se poursuit en France. Un point de presse d'ailleurs sera suivi, donc suivra la réunion en question. Le sondage Odoxa Dentsu Consulting avec vous, Véronique Reil-Soult, nous indique que 75% des Français estiment que le gouvernement fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il peut pour lutter contre la canicule. Un collectif de médecins, dans une tribune au journal Le Monde, dénonce l'augmentation de la fréquence de certaines maladies chroniques et les 60 000 décès, vous en parliez tout à l'heure, Pascal Richer, en France, dû à la pollution. Benjamin Griveaux, candidat à l'investiture La République en marche aux municipales parisiennes, était sur France Inter ce matin et a commenté cet appel des médecins.
Ce que m'a dit cette médecin qui signe aujourd'hui une tribune dans un grand journal,
dans le Monde,
avec une centaine d'autres médecins, c'est que nos villes, Paris, mais nos villes, nos grandes métropoles, fabriquaient des handicapés respiratoires.
Donc qu'est-ce que vous faites?
J'ai fait une proposition il y a un peu plus de deux mois et demi. Remplacer les 8000 systèmes de ventilation des classes parisiennes. Ça coûte pas cher, hein. C'est 60 millions d'euros sur 6 ans.
Et qu'est-ce que ça change?
C'est 10 millions d'euros.
Dans la classe de récréation,
la salle de classe, récréation. C'est là, pardon, on passe plus de temps dans la salle de classe que dans la cour de récréation.
Alexandre Sulzer, ça y est, hein, la canicule, le climat, les préoccupations des Français, eh bien, ça s'invite directement dans la campagne municipale. C'est parti.
Oui, je crois que le résultat aux européennes y est peut-être pour quelque chose, puisque les verts y ont cartonné. Et évidemment, chaque candidat va être obligé de verdir tout son programme, peut-être même verdir, être plus vert que celui de son voisin. On entendait tout à l'heure le candidat aussi écologiste, hein, qui avait un propos, c'est dans son ADN, mais qui en parlait également.
Pour le coup, c'est sa boutique.
Là, on voit même que 60 millions d'euros, finalement, ce serait presque peanuts pour Benjamin Griveaux, et d'un coup de baguette magique, on pourrait changer le système de ventilation dans les écoles.
Tout le monde ripollinait en vert, Pascal Richer?
Oui, mais à Paris, ce qui va être compliqué, c'est que Hidalgo a quand même construit son mandat sur sur la circulation dans la ville, les vélos, etc. Le fait de désengorger la ville de ses voitures, les zones piétonnières. On a encore changé la place de la Bastille récemment. Et donc, la concurrencer sur ce terrain-là va être un petit peu compliqué pour Griveaux et les autres. Parce que, en fait, ce qu'on lui reproche à elle, c'est d'en faire trop de ce côté-là. Enfin, ce que certains Parisiens lui reprochent, c'est effectivement d'avoir créé un chaos en voulant essayer de changer la circulation automobile parisienne. Mais c'est son combat et elle va continuer à le porter.
Pour poursuivre ce que vous disiez tout à l'heure, Franck Dedieu, est-ce que la lutte contre le dérèglement climatique ne se heurte pas au principe de réalité? On va parler des pesticides. Écoutez ce que Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, disait sur BFM TV ce matin.
Et si aujourd'hui nous arrêtions tous
les pesticides,
ce serait une catastrophe pour l'agriculture et surtout pour notre autonomie alimentaire, parce que nous ne serions plus à même d'avoir notre autosuffisance alimentaire. Mais J'ai toujours un mais. Nous savons très bien que nous devons sortir de la dépendance aux produits phytopharmaceutiques, aux pesticides, aux fongicides, aux herbicides. Nous y allons. Le plan du gouvernement, c'est de diminuer de 50% l'utilisation de ces produits d'ici 2025. Le faire en une seule fois. Je sais que quand je dis ça, je me fais tailler sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais le faire en une seule fois, ce serait vraiment une erreur à la fois économique et une erreur pour notre autosuffisance alimentaire.
Franck de Dieu, il y a ceux qui verdissent leur discours. Puis il y a les autres, on va dire ça comme ça. La lutte contre le dérèglement climatique est à l'épreuve du réel aujourd'hui.
Ah ben elle est à l'épreuve du réel, je dirais. Lorsque
c'est
ça
vous qui l'évoquiez tout à l'heure, ça.
Lorsque ça se passe, je dirais, à l'échelle humaine, etc. Là, effectivement, on y arrive. À partir du moment où ça se passe en grand, où il faut l'accord de tout le monde, puisque, effectivement, le dérèglement climatique, c'est une dimension planétaire, eh bien là, on se heurte au réel. Regardez, par exemple, pour le G20, Emmanuel Macron, et je crois qu'il est sincère, il se dit, bon, là, ça sera la ligne rouge, il faut absolument qu'on mette décarbonisation de l'économie globale, sinon on signera pas. Donc effectivement, il essaie d'avoir un peu cet élan du début de son mandat, un côté jupitérien, ce rêve prométhéen d'arriver de sauver le monde, make the planet great again. Bon, je pense que ça va pas marcher. Et derrière ça se pose une question peut-être plus générale, plus globale, c'est la question du multilatéralisme. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes face, je dirais, chez vous, face au réel, bah, vous arrivez à résoudre quand même à votre échelle le problème. Quand le problème se pose à échelle là où il y a 20 pays, et non des moindres, l'Inde, le Brésil, qui se disent nous on découvre les joies ou les travers, je dirais, de la société de consommation, je vois pas pourquoi on y renoncerait. Là, le multilatéralisme depuis quelques temps échoue parce qu'on n'arrive pas à 20 à se mettre d'accord. Et après tout, je dirais, on peut se dire aussi que peut-être il faudrait résoudre ce problème avec, à petite échelle, au niveau régional, au niveau européen.
Oui, revenir à plus de proximité, plus de circuits courts et autres.
Pour des raisons, je dirais, assez triviales. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas nombreux, mathématiquement, statistiquement, on arrive à obtenir plus facilement l'unanimité que lorsqu'on est 20. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais ça peut paraître un peu secondaire et un peu technique sur le plan, je dirais, statistique, j'ai envie de vous dire, concret. Mais en réalité, ça a énormément de conséquences. On ne peut plus se mettre d'accord sur le G20. La preuve, on n'en parle presque pas de ce G20. On n'en parle presque pas. Parce que les Français sont fatalistes.
On n'a jamais vraiment parlé.
Moi, j'ai connu les premiers G20 au lendemain de Lehman Brothers. On parlait que de ça.
Véronique Rel, sous le dernier mot avec vous là-dessus, à ce sujet, au fond, il y a toujours cette controverse permanente entre les anciens et les modernes. Hein. C'était un peu le fond de commerce de la crise des Gilets jaunes, on va dire ça comme ça aussi.
C'était le fond de commerce, et puis dans le fond, on est tous ambivalents et contradictoires, et les Français n'y échappent pas. C'est que bien sûr, ils ont envie de faire du bien pour la planète, bien sûr, ils sont concernés, et le sujet environnemental grandit. Et en même temps, au quotidien, quand on leur dit que les voitures critères 3 ne pourront plus rentrer dans une ville, eh bien, ça les perturbe, ils se posent la question de comment ils vont faire, et donc ils demandent juste du temps souvent, ils finissent par l'accepter bien sûr, parce qu'effectivement il y a une prise de conscience, mais on voit bien, ils râlent encore cette semaine, les uns et les autres râlaient sur les mises, les nouvelles lois, les nouvelles réglementations, même s'il n'y avait pas toujours des amendes, ils s'inquiètent et ils s'inquiètent quand même.
Et nous refermons ce chapitre avec un sourire, hein, cette auditrice Hélène qui nous écrit, c'est normal de parler des chiens quand il s'agit de canicule. Voilà,
c'est assez bien vu.
Allez, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Jean-Luc Mélenchon fait savoir ce soir sur Twitter qu'il n'est pas au courant de son renvoi devant un tribunal correctionnel. Il est appelé à y comparaître avec 5 autres personnes, dont les députés insoumis Alexis Corbière et Bastien Lachaud. Ces convocations font suite aux perquisitions mouvementées d'octobre dernier au domicile de Jean-Luc Mélenchon, mais également au siège de la France Insoumise. Édouard Philippe attendu demain au ministère de la Santé. Le locataire de Matignon y présidera une réunion interministérielle consacrée à la canicule. Il sera question de faire le point sur la gestion de l'événement. 4 départements du sud-est de la France seront demain en vigilance rouge pour de très fortes chaleurs. Il s'agit de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Un incendie gigantesque frappe depuis hier la Catalogne. 6500 hectares déjà ravagés. Ce feu s'est déclaré dans un poulailler industriel à proximité du village de la Torre de l'Espagnol. C'est dans la province de Tarragone. 350 pompiers sont mobilisés pour venir à bout des flammes. Les Françaises réussissent leur entrée pour le coup d'envoi de l'Euro féminin de basket. Les tricolores ont battu ce jeudi la République tchèque 74-61. La rencontre se déroulait à Riga en Lettonie.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, nous avions débattu tout à l'heure de ce qui se passait au sein de la France insoumise, comme l'évoquait à l'instant Thomas Benesch. Tournons-nous maintenant vers le Rassemblement National. S'agit-il d'une brèche dans la digue, une de plus? Marion Maréchal est l'invité de l'université d'été du MEDEF, l'ancien député FN du Vaucluse, en retrait temporaire, vous le savez, de la vie politique, a rencontré également, c'était mardi soir, plusieurs élus, les Républicains, dans un restaurant parisien, dont des parlementaires, révélation à la source du Figaro. Parmi eux, eh bien, le sénateur du Val-d'Oise, Sébastien Meurant, qui s'en est expliqué sur France Info aujourd'hui.
Ce qui importe, c'est en tant que sénateur, c'est de pouvoir parler avec qui on le souhaite. Ça fait partie des fondamentaux d'une démocratie, la liberté de parole, d'échanger pas forcément avec des personnes avec qui, a priori, nous sommes d'accord. Et moi, si je me suis engagé en politique, ça fait maintenant un certain nombre d'années, c'est sur une ligne gaulliste qui avait simplement au cœur et à l'âme la défense de la France et une notion qui s'appelle le bien commun. Donc de discuter avant-hier avec notamment Marion Maréchal Le Pen, mais pas simplement, il y avait d'autres personnes sur les sujets qui sont d'actualité nationale et locale, par exemple la lutte contre la privatisation d'ADP, et donc de parler et d'avoir le renfort de tous les Français d'où qu'ils viennent, et éventuellement de Marion Maréchal Le Pen, si et il se trouve qu'elle est d'accord pour s'engager dans cette lutte, c'est une très bonne chose parce que nous parlons de la France et des Français.
Alexandre Sulzer, nouvelle fissure à droite.
Oui, non, c'est-à-dire que là, en fait, depuis quelque temps déjà, certains élus LR qui sont sur cette ligne très spécifique de dialogue avec l'extrême droite, enfin, il l'avait déjà exprimé, notamment Sébastien Meurant, qu'on vient d'entendre, avait déjà dit, il avait déjà publiquement exprimé cette position, notamment dans un mensuel qui s'appelle L'Incorrect, qui est dirigé par des proches de Marion Maréchal. Donc, sur le fond, c'est pas très étonnant. Ce qui l'est un peu plus, c'est que ces élus, enfin en tout cas trois d'entre eux, sur la vingtaine qui a rencontré Mme Maréchal mardi soir, ont accepté que leur nom sorte dans la presse. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. On voit qu'il y a une opération dans l'entourage de Mme Maréchal pour rendre public cet acte de dialogue, pour désinhiber un petit peu, pour comment dire, pour rendre moins sulfureux finalement ce dialogue et en faire presque un acte banal, évidemment en perspective des mois et des années à venir, des échéances à venir en tout cas.
Pascal Richer, pour compléter ce qui vient d'être dit par Alexandre Sulzer, pour bien comprendre également, démarche personnelle de Marion Maréchal selon vous, très personnelle?
Parce que
vraisemblablement, au Rassemblement National, on a l'impression de pas très bien comprendre ce qui se passe, non plus.
Non, je pense que c'est une démarche personnelle. Hein. Ça fait un moment qu'elle tourne autour de cette idée de rassemblement des droites et de jonction entre cette droite dans les trois droites de René Raymond, c'est celle qui correspond à la droite catholique, traditionnelle, etc. Et puis la droite plus bonapartiste du Front National. Arithmétiquement, si vous prenez les 25% du Front National plus les 15% de cette droite wokiste, disons, vous pouvez avoir le pouvoir. Donc je pense qu'elle tourne autour de cette idée. Je pense que son compagnon, qui était un militant italien de la Ligue, enfin qui est même un responsable de la Ligue, puisqu'il s'occupe des affaires culturelles, montre un peu l'exemple de ce qui s'est passé en Italie, donc on peut prendre le pouvoir en venant de l'extrême droite. Donc tout ça, l'affaire Vigier. Alors qu'est-ce qu'elle vise? Est-ce qu'elle vise 2022? Je n'y crois pas trop. 2027, c'est plus probable.
Oui, Franck de Dieu.
Bah, moi, je ne veux pas vous paraître cuistre, hein, mais on a parlé de droite légitimiste, de droite bonapartiste, mais il y a une troisième. Et c'est ça, finalement.
C'est Macron, la troisième. C'est les orléanistes.
C'est le coup que fait Marion dans cette histoire. C'est la droite orléaniste.
Mais non, la droite orléaniste, c'est Macron.
Mais il
parle d'extrême droite, lui.
Non, mais je voudrais terminer là-dessus. C'est que sur la droite orléaniste, il y a un mélange de droite orléaniste. C'est-à-dire qu'elle est libérale en économie. Elle est libérale en économie. À la différence de sa tante, elle est favorable à la baisse des impôts. C'est une libérale en économie. Et c'est en ce sens que l'union des droites par le libéralisme économique avec des LR qui sont quand même, qui ont depuis longtemps abandonné l'idée de l'interventionnisme, ça peut marcher. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose aussi de bonapartisme, dans le côté, je dirais, protectionnisme à l'égard de l'Europe. Donc c'est cette espèce de mélange, et je crois que, et c'est pas tout à fait innocent non plus, si cette info sur la présence au MEDEF, c'est-à-dire que effectivement, vous avez une carte qu'elle joue et qui la distingue par rapport, je dirais, à Marine, c'est la carte du libéralisme économique pour baisser les impôts, pour répondre à ce
ras-le-bol fiscal. C'est là l'élément central de distinction entre les deux.
Oui, bien sûr, et c'est ce qui va peut-être permettre de faire le ciment de cette fameuse union des droites en disant je suis autoritaire sur le plan sociétal, voilà, et on s'est aperçu
que ce n'est plus Marine Le Pen pour le coup.
Sur le plan économique.
Sur le plan sociétal, Marine Le Pen, elle est gay-friendly.
Véronique Reilsoult, est-ce que l'opinion publique épouse, au fond, ce qui sépare ces familles politiques?
Alors, l'opinion publique ne range peut-être pas exactement comme mais globalement, oui, en fait, surtout ce qui est frappant, c'est de voir, quand on parle des militants, ou en tout cas des sympathisants, des gens qui s'expriment beaucoup sur les Républicains, ils étaient plutôt favorables à cette rencontre. Beaucoup commentaient en disant, ça veut pas dire qu'on va se rassembler, mais c'est intéressant d'écouter. Le sujet qui a plus fait réagir violemment, c'est la présence au MEDEF annoncée. Je sais pas si
ça fait réagir. Ça
a beaucoup fait réagir. Alors les politiques, beaucoup, les journalistes également, mais finalement l'opinion publique en général, en s'interrogeant, en se disant, et donc en fait, peut-être qu'effectivement la différence, elle est ce point économique. Une relation avec les chefs d'entreprise que n'avait pas sa tante, et donc ça interrogeait beaucoup et ça faisait peur.
Alors
c'était beaucoup de messages effrayés.
Certains MEDEF confient aujourd'hui à mot couvert que l'idée ce serait de monter un débat sur le ou les populismes entre des ténors du Rassemblement National, en tous les cas Mario Maréchal et pourquoi pas de la France Insoumise.
Maréchal n'étant pas un ténor du RN.
Elle est à part. L'idée c'est de faire débattre au MEDEF, donc aux universités d'été, mais apparemment le casting, pardonnez-moi pour cet anglicisme, n'est pas encore bouclé, il se donne jusqu'à fin juillet pour éventuellement faire marche en arrière, parce qu'il y a des députés Alexandre Sulzer, qui de La République En Marche, qui se retire déjà, c'est Coralie Dubost, Olivia Grégoire et Roland Lescure. Vous pensez que au fond inviter Marion Maréchal, c'est rédhibitoire?
En tout cas, ce qui fait beaucoup réagir effectivement, c'est que MEDEF est quand même ça peut être un syndicat de patrons, c'est une institution, c'est de fait une institution dans le paysage politique, social français, et que le fait qu'une institution invite Marion Maréchal dans un tel cadre la rend respectable, la notabilise d'une certaine façon, c'est ça qui fait réagir.
Oui, oui. Franck de Dieu, je voudrais que vous répondiez à une question. Oui. Quand tout à l'heure Alexandre Sulzer parle de l'extrême droite française, est-ce que c'est aujourd'hui la bonne appellation? Est-ce que c'est aujourd'hui devenu plus compliqué?
Bon, on a 4 heures, c'est ça?
Non.
Bien sûr que c'est devenu plus compliqué, à la fois parce que, justement, je fais cette distinction entre cet autoritarisme sociétal qu'on retrouve chez Bolsonaro.
C'est pour cela que je vous pose la question.
Aussi ce libéralisme économique qui vient historiquement plutôt, je dirais, du centre-droit, de l'atlantisme, de l'UDF, etc. Donc effectivement, tout cela est très brouillé. Tout cela est très brouillé. Vous voyez, ce flou fait, je dirais, comme victime la France insoumise, et paradoxalement, ça fait presque, je dirais, une opportunité pour rassembler les gens de droite. On marche sur la tête.
Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Des coups de feu cet après-midi devant la mosquée de Brest font 2 blessés, parmi eux l'imam de cette mosquée, homme que François Hollande avait qualifié en 2016 de prêcheur de haine après des propos polémiques tenus sur Internet. L'auteur présumé des tirs, après avoir pris la fuite, a lui été retrouvé mort près de Brest. Le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Strauda, échappe à des poursuites judiciaires, mises en cause pour des soupçons de faux témoignages dans l'affaire Benalla. Le parquet de Paris classe l'affaire sans suite. En ce qui concerne les cas d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, ancien employé du parti présidentiel, l'enquête se poursuit. C'est du jamais vu en France. 4 départements sont classés en vigilance rouge à la canicule. Il s'agit de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. La chaleur dans ces secteurs pourra atteindre demain les 42 à 45 degrés, prévient Météo France. Ailleurs dans l'Hexagone, 76 autres départements sont en vigilance orange. Premier quart de finale disputé aujourd'hui dans le cadre du mondial féminin de football. La Norvège affronte l'Angleterre. Le coup d'envoi, c'est dans 10 minutes. En attendant la France, bien sûr, qui jouera demain pour une place en demi, ce sera face aux États-Unis.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Cela va plaire à Franck de Dieu, le climat décidément au cœur de toutes les discussions au Japon. Emmanuel Macron en marge de sa visite officielle à Tokyo.
Nous devons au G20 non seulement réaffirmer nos engagements en matière climatique et de biodiversité, mais passer une étape supplémentaire de mise en œuvre. Le G7 sera à cet égard un rendez-vous critique quelques semaines avant le sommet des Nations Unies pour le climat.
Franck de Dieu, nous sommes dans le discours monde là, hein, c'est ça, on parle du climat, mais au niveau mondial, est-ce que ça redescend un petit peu, ça impacte les politiques publiques de tous les pays concernés?
Ben non, parce que ça suppose un choix fondamental, c'est-à-dire de remettre fondamentalement en cause le libre-échange et pas de le faire à la hussarde comme Trump. Je crois que le terme de fatalisme, on l'a utilisé dans le sondage, mais ça prouve bien que les Français, j'ai l'impression, ont compris que finalement... face au dérèglement climatique, c'est à la portée de main, c'est à la hauteur d'homme, et là je le fais. Quand ça pose des questions beaucoup plus systémiques, là on est un peu fataliste, on dit « ah, on n'y arrivera pas ». Au fond, Emmanuel Macron, souvent il a parlé de ligne rouge, il n'a pas, il a fini par s'incliner devant, je dirais, l'absence d'unanimité, oui. On pourrait en parler en zone euro. Mais la seule fois où il a finalement tenu, c'est sur la taxe des GAFAM, c'est-à-dire lorsqu'il a fait un choix unilatéral. Et au fond, ce fatalisme des Français, c'est de se dire, lutter contre le réchauffement climatique suppose, finalement, un choix unilatéral. Les Français doivent faire cela, les Allemands aussi, chacun à sa façon. Peut-être qu'il faut s'en remettre à cela et de dire, le temps du multilatéralisme, pardon d'y revenir, ce temps-là se termine parce que, quelque part, ça dit quelque chose aussi sur le pouls du monde.
Je rappelle cet aspect-là de notre enquête au Doxa Dansu Consulting France Info. Le Figaro, 56% versus 43% des Français, on va dire, croient en la fatalité des événements. Véronique Reilsoult, et pense que le gouvernement n'a pas vraiment les moyens d'en empêcher les conséquences funestes. C'est assez pessimiste.
C'est assez pessimiste. C'est un principe de réalité. Pour autant, pas de possibilité d'empêcher les conséquences funestes, mais de se dire qu'on peut faire des choses en amont, ça, pour le coup, ils y croient plus. Et c'était pour répondre à ce que vous disiez. Ce qui était assez intéressant, c'est que pendant la campagne européenne, les deux seuls sujets qui motivaient les gens dans les discussions pour dire on va y aller, ce qu'on disait sur les réseaux, c'était l'immigration, où ils considéraient qu'on peut pas avoir une politique seule, et l'écologie. Et on voit bien quand il y avait des consignes qui disaient il faut voter, en particulier chez les jeunes sur Instagram, qui se passaient des tas de messages pour dire il faut aller voter, parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas mener seul, et que si on veut quelque chose de concret, il faut au moins qu'on se mette d'accord en Europe. Donc il y a peut-être un intermédiaire entre le multilatéralisme mondial et puis juste soi-même, et l'Europe
était... Alors, j'ai su rien.
Pascal Richer, quand on entend tout à l'heure le président Emmanuel Macron, quelle est l'idée au fond? Est-ce d'impacter, pour ce néologisme, les opinions publiques mondiales, à défaut de pouvoir faire plier un monsieur Trump?
Oui, je pense qu'il aime bien ce rôle-là, et il aime bien endosser le rôle, effectivement, de l'homme qui va sauver la planète, etc. Même si, comme je disais tout à l'heure, ses actions ne sont pas forcément en cohérence avec ses discours. Après, je pense qu'il a compris que le G20 ne servait à rien. Et d'ailleurs, tout le monde commence à le comprendre. Comme, effectivement, vous le disiez, Alexandre, le multilatéralisme en ce moment ne marche pas du tout, alors c'est dommage parce qu'on en aurait bien besoin. Au dernier G7 au Canada, Trump avait refusé de signer le communiqué, et donc je crois comprendre que les communiqués vont disparaître, celui du G20 probable peut-être, et celui du G7 de Biarritz bientôt, c'est pas sûr.
Vous voulez dire que le G20 devient un machin?
C'était déjà une photo, mais il y avait un communiqué. Et au moins, ils essayaient de se mettre d'accord sur un truc. Alors, le communiqué était toujours un peu, c'était une soupe claire. C'était pas quelque chose. Il n'y avait pas de morceau de viande très solide dedans, mais il y avait au moins quelque chose de multilatéral, quelque chose, une entente commune sur. Ça va disparaître. Oui.
Alexandre Sulzer, le G20 ne sert à rien.
Non, même la soupe claire en question, on n'est même plus capable aujourd'hui.
Elle est trouble.
Elle est même plus trouble. Elle est plus là. L'assiette, le fond de plat est cassé.
Le seul intérêt, c'est qu'au moins ils se réunissent. Donc au moins Trump va rencontrer Xi, au moins Trump va rencontrer Poutine.
Oui, mais c'est même pas sûr qu'il rencontre Macron en bilatéral. Apparemment, Emmanuel Macron.
Oui, quand on dit bilatéral, c'est-à-dire en tête à tête.
En tête à tête, pour ceux qui nous écoutent. Apparemment, il a demandé, il n'est même pas sûr de l'obtenir. On voit que dans ces rencontres, la France ne pèse pas grand-chose. Il faut dire les choses comme elles sont.
Franck de Dieu, finalement, on a l'impression que l'on commande quelque chose de tout à fait hors sol. ces grandes réunions mondiales ne serviraient donc à rien. C'est assez inquiétant comme constat ce soir.
C'est assez inquiétant, mais je crois qu'il faut peut-être, une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, le diagnostic de l'impossibilité de l'unanimité au sein de pays qui n'ont pas les mêmes intérêts, et c'est après tout assez normal, il faut peut-être en prendre acte et se dire, au fond, maintenant, à quelle échelle on va jouer ? Bon, vous avez évoqué l'échelle post-nationale de l'Europe. Pourquoi pas ? J'ai envie de vous dire, mais même là, c'est compliqué. On n'arrive pas à grand-chose sur le plan écologique et sur le plan, je dirais, domestique. On y arrive à peu près. Non, peut-être qu'il faut jouer sur le plan national, c'est tout.
Oui, et vous n'éviterez pas les émissions de gaz à effet de serre au niveau national.
Effectivement, mais j'ai envie de vous dire, ça serait déjà ça, d'essayer à l'échelle nationale que l'air soit davantage respirable.
Oui, l'air respirable. Véronique Redsoult, encore un mot.
Oui, ouais, juste, c'était pour abonder dans le sens de... voilà, ça devient plus si important, et c'est une photo.
De ce que disait Pascal Michel.
Voilà, je regardais, est-ce qu'on parlait beaucoup du G20 ? Je vais malheureusement vous dire que non, on n'en parle pas tant que ça dans les messages. Et les contenus sont justement cette photo. Donc au Japon, il y a énormément de sujets dans les médias et sur les réseaux sociaux sur le couple Macron qui avait rencontré le couple impérial. Voilà, on ne parle pas finalement du fond, donc c'est bien un sujet de photo.
Allez, je rappelle Véronique Redsoult, notre enquête Odoxa, Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro... sur la canicule, à découvrir sur le site de franceinfo.fr. Avec vous, Alexandre Sulzer. Connaissez-vous la une du Parisien aujourd'hui en France demain ?
Je la connais, ce ne sera pas Trump contre Macron, mais en revanche, la France contre les États-Unis demain, à la rencontre attendue du quart de finale.
Pascal Richer, la une de l'Obs.
Voilà, donc c'est Sarkozy et Macron, et nous entraînons dans les secrets de l'entente entre ces deux hommes.
Secrète, en attendant l'interview de Nicolas Sarkozy, ce sera dimanche soir sur France 2. Et avec vous, Franck Dedieu, la une de Marianne, qui m'intrigue.
Alors, c'est en crêpe de chaud, on va crever de soif, la canicule se poursuit, on s'est beaucoup interrogé sur la façon de repenser la ville, parce que c'est évidemment ça aussi le cœur du problème. Et vous voyez, on s'est aperçu qu'on a une marge de manœuvre, même à l'échelle je dirais des villes.
Allez, pas d'informés demain soir en raison du foot, c'est pour une bonne cause. Les informés ce week-end, ce sera avec Noé Da Silva. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.